Chapitre 24. Il fallait absolument que Mike aille au cimetière, mais pour rien au monde, il n'y serait allé seul. Il rappela à sa mère qu'il n'avait pas fleuri la tombe du grand-père depuis bien longtemps et lui suggéra qu'il s'y rende en famille le dimanche. Chaque fois qu'il lisait le journal de mémo, qu'il dissimulait sous son édredon dès que sa mère entrait, il se sentait très indiscret. Mais l'idée venait de mémo, n'est-ce pas ? Le journal de sa grand-mère était un gros cahier à reliure de cuir qui allait de décembre 1916 à la fin de l'année 1919. Mémo y avait écrit presque tous les jours, et en le lisant, Mike apprit ce qu'il voulait savoir. Le nom de William Campbell Phillips était mentionné dans le journal dès la fin de 1916. Il avait été un camarade de classe de Mémo, et même plus, un amour de jeunesse. Ils avaient terminé leurs études secondaires la même année, en 1904. Puis Mémo était parti faire une école de commerce à Chicago et y avait rencontré grand-père dans une laverie de Madison Street, tandis que William Campbell Phillips avait fréquenté Jubilee College, tout près, avant de devenir instituteur. Quand Mémo, marié et mère de famille, était revenu de Chicago en 1910, il enseignait à Old Central. Mais d'après les remarques prudentes de la jeune femme dans son journal, il n'avait pas renoncé à elle. Plusieurs fois, aux heures où son mari travaillait au silo, il était passé lui apporter des cadeaux et il lui avait écrit des lettres. Bien que leur contenu ne fût pas précisé dans le journal, Mike pouvait l'imaginer. Certains passages du journal intéressèrent Mike au plus haut point. « 29 juillet 1917. J'ai rencontré cet ignoble Phillips à la kermesse avec Katrina et Héloïse. Je me souvenais d'un William Campbell calme et doux, quoique peu bavard, scrutant le monde de ses yeux noirs et profonds. Mais il a changé. Katrina aussi l'a remarqué. Des mères d'élèves se sont plaintes de son irascibilité auprès du directeur. Il bat les enfants au moindre petit écart de conduite. Je suis bien contente que le petit John ne soit pas encore en âge d'être dans sa classe. Les avances de ce monsieur sont parfaitement déplaisantes. Aujourd'hui, il a tenu à engager la conversation malgré mon déplaisir manifeste. Il y a des années, je lui ai dit que nous ne pourrions pas entretenir de relations amicales s'il persistait à se conduire de cette manière inconvenante. Il n'en a pas tenu compte. Ryan a plutôt tendance à en rire. Les hommes de la ville considèrent William Campbell comme un inoffensif petit garçon à sa maman. Bien sûr, je n'ai jamais parlé à Ryan de ces lettres que j'ai toutes brûlées. Fin octobre de la même année, Mémo évoquait à nouveau l'instituteur. Alors que les hommes prennent un repos bien mérité après la moisson, tout le bourg ne parle que de la décision de William Campbell Phillips d'aller se battre contre les Boches. Au début, personne ne l'a pris au sérieux car il a presque 30 ans, mais il est revenu hier de Peoria en uniforme. Katrina le trouve très beau ainsi. Mais elle a ajouté que selon certains bruits, il n'avait pas le choix car il était sur le point de se faire renvoyer. Depuis que les parents du petit Caton ont écrit aux autorités pour se plaindre de sa sévérité excessive et des corrections qu'il administrait à ses élèves, Tommy Caton a effectivement été hospitalisé à Oak Hill, même si Phillips prétend que l'enfant est tombé dans l'escalier après avoir été gardé en retenue, d'autres parents se sont manifestés. Quoi qu'il en soit, sa décision est honorable. Ryan dit que s'il n'y avait pas John, Catherine et le petit Ryan, il s'engagerait tout de suite.
Puis, le 9 novembre 1917.
Phillips est revenu aujourd'hui. Je ne dirai pas ce qui s'est passé, mais je serai éternellement reconnaissante au livreur de glace d'être arrivé quelques minutes après lui. Sinon, il dit qu'il reviendra me chercher. Ce vil personnage refuse d'admettre le caractère inviolable des vœux du mariage et les devoirs sacrés d'une mère envers ses enfants. Il ne mérite que mon mépris. Tout le monde s'extasie sur sa prestance en uniforme. Moi, je le trouve grotesque. Un enfant déguisé. J'espère qu'il ne reviendra jamais.
Enfin, ces derniers mots au sujet du soldat datés du 27 avril 1918.
Aujourd'hui, presque toute la ville a assisté aux obsèques de William Campbell Phillips. Moi, je n'y suis pas allé à cause de ma migraine. Ryan raconte que l'armée voulait l'inhumer avec les autres soldats tombés au combat dans un cimetière américain en France, mais que sa mère a insisté pour faire rapatrier le corps. Sa dernière lettre m'est parvenue après la nouvelle de sa mort. Il l'avait écrite pendant sa convalescence dans un hôpital français, ignorant que la grippe allait achever ce qu'avaient commencé les balles allemandes. Dans cette lettre, il disait que sa vie dans les tranchées l'avait encore affermi dans sa résolution et que rien ni personne ne l'empêcherait de venir chercher ce qui est mien. Eh bien, il en a bel et bien été empêché. J'ai très mal à la tête, je dois me reposer. Plus jamais je ne parlerai de ce triste sire.
La tombe de grand-père se trouvait près de l'entrée du cimetière des Cavaliers, dans la troisième rangée à gauche de la grille. Les O'Rourke déposèrent des fleurs et dirent silencieusement une prière. Puis, pendant que les autres arrachaient les mauvaises herbes et nettoyaient la tombe, Mike explora le cimetière. Il n'eut pas à chercher longtemps, il le connaissait bien. Et les petits drapeaux apportés par les scouts à l'occasion de Memorial Day marquaient, quoique fanés et délavés par la pluie, l'emplacement des tombes des anciens combattants. Phillips était tout au fond. Le garçon lut cette inscription sur la plaque. William Campbell Phillips, 9 août 1888, 3 mars 1918. Il mourut pour que vive la démocratie. Le sol sur la tombe semblait avoir été récemment bêché, et il remarqua tout autour plusieurs creux circulaires d'une cinquantaine de centimètres de diamètre, près desquels la terre paraissait s'affaisser. Ses parents l'appelaient du parking. Il courut les rejoindre. Le père Cavano fut content de revoir son enfant de cœur. « Rusty n'arrive pas à faire les réponses en latin, même quand il les a sous le nez. Vas-y, prends un autre biscuit. » Mike n'avait pas encore retrouvé son appétit, mais il se resservit.
« J'ai besoin d'aide, mon père. »«
De votre aide ?»« Bien sûr, Michael, tout ce que tu voudras. » Le garçon respira un grand coup avant de commencer son récit. Il avait pris sa décision pendant ses moments de lucidité entre deux poussées de fièvre, mais plus il parlait, moins il avait l'impression que son histoire tenait debout. Il continua néanmoins. Quand il eut fini, il y eut un bref silence et le père Cavano le regarda fixement. « Tu ne plaisantes pas, hein, Michael ? Tu n'essaierais pas de me jouer un tour ?» Mike le fixa sans un mot. « Non, je ne le pense pas. » Il laissa échapper un soupir. « Alors, tu crois que tu as vu le fantôme de ce soldat ?»«
Pas vraiment !» protesta Mike avec véhémence. « Je veux dire, je ne crois pas que ce soit un fantôme. J'ai vu la moustiquaire se courber sous sa pression. C'était quelque chose de solide. »
Le père Cavano acquiesça sans quitter Mike des yeux. « Mais ça ne peut pas être ce William Campbell...
Phillips. »
Ça ne peut pas être lui après 42 ans, donc ça ne peut être que son fantôme ou une sorte de manifestation immatérielle. D'accord ?
Ce fut au tour de Mike d'approuver.
Et que veux-tu que je fasse, Michael ?
Un exorcisme, mon père. J'ai lu un article là-dessus et...
Le prêtre secoua la tête. Voyons, Michael. Les exorcismes sont une pratique médiévale, une forme de magie censée chasser les démons qui possèdent les gens. Mais au Moyen-Âge, on pensait que les démons étaient responsables de tous les malheurs et de toutes les maladies. Tu ne penses quand même pas que... cette apparition, vue un soir où tu avais la fièvre, était un démon.
Mike ne releva pas l'allusion à sa fièvre et ne lui parla pas de la première fois où il avait vu le soldat.
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il en veut à ma grand-mère et que vous pouvez peut-être m'aider. « Vous ne voulez pas venir avec moi au cimetière ?»
Le père fronça les sourcils. « Le cimetière des Cavaliers est terre consacrée, Michael. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Les morts y reposent en paix.
Mais un exorcisme ?»«
Un exorcisme est censé chasser les esprits maléfiques d'un corps ou d'un lieu dont ils ont pris possession. Tu ne veux pas dire que ta grand-mère ou votre maison sont possédées par l'esprit de ce soldat ?»
Mike hésita.
« Non. » Bien sûr.
Et les exorcismes s'utilisent contre toutes les forces du mal et non contre les âmes des morts. Tu sais que nous disons des prières pour nos morts, Michael. Tu ne crois quand même pas, comme les membres des tribus primitives, que les esprits des morts nous veulent du mal.
À court d'arguments, Mike hocha la tête.
Alors, vous ne voulez pas venir avec moi au cimetière ?
Mike ne savait pas pourquoi il y attachait une telle importance, mais il y tenait.
Mais si.
tout de suite si tu veux. » L'enfant jeta un coup d'œil à la fenêtre du presbytère. Il faisait presque nuit.
« Non, plutôt demain, mon père. »«
Demain, je dois partir pour Peoria aussitôt après la messe pour aller voir un ami jésuite. Mardi et mercredi, je retourne en retraite à Sainte-Marie. Si ça peut attendre jeudi. »
Mike se mordit les lèvres. Il y a encore un peu de lumière.
« Allons-y maintenant, alors. Vous pouvez apporter quelque chose ?»
Le père, qui enfilait son blouson, s'immobilisa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Vous savez bien, un crucifix, ou mieux encore une hostie, au cas où ce serait là-bas. »
Le prêtre secoua la tête.
« Tu as vraiment été bouleversé par la mort de ton ami, n'est-ce pas, Michael ? Tu ne te croirais pas dans un film de vampire par hasard ? Tu ne voudrais tout de même pas que je sorte le corps de notre Seigneur de son sanctuaire ?»«
De l'eau bénite, alors. J'ai apporté ça. »
Il tira de sa poche une petite bouteille de plastique.
« Très bien, » soupira le prêtre. « Va chercher tes munitions pendant que je sors la papa mobile.
Nous ferions bien de nous dépêcher si nous voulons être là-bas avant l'arrivée des vampires, »
ajouta-t-il en riant. Mais Mike ne l'entendit pas. Il était déjà à la porte et la bouteille à la main courait en direction de Saint-Malachy. La veille, Madame Stewart avait appelé le docteur Weisks. Après avoir rapidement examiné Dale et remarqué ses claquements de dents et son air terrifié, il avait protesté qu'il n'était pas un zycologue pour enfants. Puis il avait prescrit de la soupe chaude et interdit les illustrés et la télé avant de repartir en grommelant. La mère de l'enfant s'était affolée. Elle avait appelé des amis pour leur demander s'ils ne connaissaient pas un psychologue pour enfants à Oak Hill ou Peoria et envoyé deux messages à l'hôtel de Chicago où séjournait son mari. Quant à Dale, il avait essayé de la rassurer dans la mesure du possible et de réprimer ses tremblements. Heureusement qu'il faisait grand jour.
« Je suis désolé, maman, » expliqua-t-il de son lit. « J'ai toujours eu peur du sous-sol. Et quand la lumière s'est à nouveau éteinte et que j'ai senti ce chat sous l'eau... »
Il faisait de son mieux pour parler posément et donner l'impression d'être à la fois honteux, attristé et parfaitement sain d'esprit. Pas facile. Sa mère finit par se calmer un peu et lui apporta assez de soupe chaude pour noyer un autre chat. Kevin voulut monter lui dire bonjour, mais il lui fut répondu que son ami se reposait. Au retour d'un après-midi passé chez des copains, Lorenz attendit que leur mère fût descendue pour chuchoter
« Tu as vraiment vu quelque chose ? Vraiment, vraiment ?»
Dale hésita. Lorenz avait tous les travers exaspérants des frères cadets, mais on pouvait compter sur lui pour garder un secret.
« Ouais, qu'est-ce que c'était ?»
Lorenz s'approcha du lit de Dale en évitant soigneusement de mettre ses jambes trop près du sien. Même le jour, il se méfiait de la zone d'ombre là-dessous.
Toby Cook.
Le seul fait de prononcer ce nom lui fit monter la terreur aux lèvres comme une nausée.
Il était mort,
continua-t-il d'une voix presque imperceptible.
Mais il a ouvert les yeux.
Dès que Dale eut dit ces mots, il se félicita d'être resté vague devant sa mère et Madame Grumbacher. S'il avait donné ce genre de détails, à l'heure actuelle, il serait dans une cellule capitonnée. Lorenz se contenta d'acquiescer. Il croyait son frère sans aucune réserve.
« Il ne reviendra sans doute pas avant la nuit. On demandera à maman de laisser toutes les lumières allumées. »
Si seulement c'était aussi simple, si tout cela pouvait se résoudre avec des lumières allumées.
Les lumières restèrent allumées toute la nuit et les deux enfants s'organisèrent pour dormir et monter la garde à tour de rôle. Dale lut Superman en surveillant d'un œil les coins sombres. Vers 3 heures, il entendit un très faible bruit sous le lit de Lorenz, un léger froissement comme un chaton qui s'éveillerait. Il s'assit et serra dans sa main la raquette de tennis dont il s'était armé, mais il n'y eut pas de second grattement. À l'approche de l'aube, quand derrière la moustiquaire les interstices entre les feuilles commencèrent à être moins noirs que les feuilles elles-mêmes, il s'abandonna au sommeil. Leur mère les réveilla vers 8 heures pour aller à l'église, mais les trouva si fatigués qu'elle leur permit de rester au lit. Le dimanche soir, après dîner, au moment où Mike O'Rourke et le père Cavano roulaient vers le cimetière des Cavaliers, Dale et Lorenz, qui jouaient à la balle dans la cour, entendirent un faible « haïki ». Ils se précipitèrent dans la rue et y trouvèrent Jim Harlan en compagnie de Cordy Cook. Ces deux-là formaient un couple si incongru que Dale aurait éclaté de rire si Harlaine n'avait pas eu l'air aussi sinistre avec son écharpe noire et son bras dans le plâtre, et si Cordy Cook n'avait pas tenu un fusil.
« Bon Dieu !»
s'écria Lorenz en désignant l'arme de la fillette.
« Tu vas t'attirer de sérieux ennuis si tu te balades en ville avec ça !»«
Je t'ai demandé de ramener ta fraise !»
rétorqua Cordy. Lorenz changea de couleur et serra les poings. Il allait charger lorsque Dale s'interposa et lui saisit les deux bras par derrière.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il aux deux autres.
« Il se passe quelque chose !»
murmura Harlaine. Il fronça les sourcils en voyant Kevin descendre le talus de son allée. Celui-ci regarda Cordy, inspecta son fusil de haut en bas et de bas en haut, leva les sourcils jusqu'à sa coupe en brosse et attendit les bras croisés.
« Kevin fait partie de notre bande, » expliqua Dale. « Il se passe quelque chose, » répéta Harlaine. « Allons en discuter chez O'Rourke. »
Dale approuva et lâcha son frère en lui ordonnant du regard de se tenir tranquille. Tous deux sortirent leur bicyclette, tandis que Kevin allait chercher la sienne. Cordy était à pied, aussi les quatre garçons pédalèrent-ils doucement sur le trottoir à côté d'elle. Dale aurait bien voulu qu'ils accélèrent avant qu'une grande personne passe en voiture et remarque le fusil. Mais comme on était dimanche soir, le tunnel de verdure de Depot Street était désert. On apercevait entre les feuilles les nuages rougis par les derniers rayons du soleil, mais sous les ormes, il faisait presque noir. À l'extrémité de la route, les maïs étaient aussi grands qu'eux et formaient un haut mur vert. Bien que sa bicyclette fût appuyée contre le mur de derrière, Mike ne répondit pas au signal. Des lumières s'allumèrent chez lui, et les enfants, dissimulés derrière les poiriers de son jardin, virent son père sortir en tenue de travail, monter dans sa voiture et s'éloigner. Avec des précautions de Sioux, ils s'installèrent dans le poulailler pour y attendre le retour de Mike.
« Attention, voilà mon grand frère !» avait envie de crier Mike dans la papamobile.
Il n'avait pas de frère aîné pour le protéger ou le tirer des mauvais pas. C'était plutôt lui qui jouait ce rôle auprès des enfants plus jeunes. Alors ce soir-là, il appréciait beaucoup de pouvoir pour une fois se reposer sur quelqu'un. Il craignait de se ridiculiser devant le père, mais il avait encore plus peur de la force mystérieuse qui envoyait le soldat la nuit derrière la fenêtre de Memo. En passant devant l'arbre noir, fermé comme tous les dimanches soirs, il serra dans sa main le petit flacon d'eau bénite enfoui dans sa poche de pantalon. Le pied de la colline était presque plongé dans l'obscurité, mais le sommet était un peu plus clair. Le soleil avait disparu, toutefois, des nuages rouges et dorés naviguaient encore dans le ciel. Les pierres tombales, sur lesquelles se reflétait la lumière du soir, luisaient faiblement. Le père Cavano s'arrêta pour refermer la grille et lui montra, au fond du cimetière, la grande statue en bronze du Christ.
« Tu vois bien, Michael, cet endroit est un lieu de paix. Notre Seigneur veille sur les morts comme sur les vivants.
Par ici, mon père. »
Mike le guida à travers les longues allées. La brise s'était levée. Elle agitait les feuilles des quelques arbres poussant le long de la clôture et les petits drapeaux flottant sur les tombes des anciens combattants. Celle du soldat était dans le même état que tout à l'heure, avec de la terre qui semblait fraîchement remuée. Le père Cavano se frotta le menton.
« C'est l'état de la tombe qui t'inquiète, Michael ?»«
Ben, oui. »«
Ça ne veut rien dire. Quand elles sont anciennes, les tombes se tassent et le gardien y lance de la terre qu'il va prendre de l'autre côté de la clôture. Regarde, on a répandu des graines de gazon aussi. Dans deux semaines, l'herbe recouvrira tout. »
Mike se rongea un ongle.
« C'est Carl Van Syck, le gardien, vous savez ?»«
Ah oui. »«
Vous voulez bien bénir la tombe, mon père ?»
Le prêtre fronça légèrement les sourcils.
« Un exorcisme, Michael ?» Il sourit. « J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile, mon garçon. Il n'y a que très peu de prêtres qui savent le pratiquer. C'est un rituel presque oublié, Dieu merci. Et même les exorcistes doivent d'abord obtenir la permission du Vatican et de leur archevêque. »
Oh, juste une bénédiction,
insista l'enfant.
Remarque, j'imagine que ce pauvre soldat a bien mérité une bénédiction supplémentaire.
Mike allait sortir son eau bénite, mais le prêtre avait déjà levé la main droite et les doigts du milieu dressés, le pouce et l'auriculaire joints. Il fit le geste qui, aux yeux de l'enfant, était extrêmement chargé de sens en articulant à mi-voix
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Mike lui tendit la bouteille, le père hocha la tête en souriant, mais il aspergea la tombe de quelques gouttes et refit le signe de la croix. Mike l'imita.
« Ça te va ?»
Le garçon ne quittait pas la tombe des yeux. Pas de ruban de fumée à l'endroit où étaient tombées les gouttes d'eau bénite, pas de feulement sorti du sol.
« J'ai rêvé alors ?»
Tandis qu'il revenait lentement vers la voiture, le père Cavano évoqua les coutumes funéraires d'autrefois.
« Mon père !»
À quelques tombes de la clôture, Mike attrapa la manche du blouson du prêtre, s'arrêta et montra du doigt une zone d'ombre au milieu de trois genévriers qui poussaient en triangle. Le soldat était là, sous les branches. La dernière lueur du crépuscule laissait deviner son chapeau de brousse, son ceinturon et les bandes molletières boueuses. Une partie de Mike exultait alors que les battements de son cœur s'accéléraient.
« Je ne l'ai pas inventé. Le père Cavano peut le voir lui aussi. Il existe vraiment. »
Le père, effectivement, voyait le soldat. Il se raidit un instant, puis se détendit, jeta un coup d'œil à Mike et eut un petit sourire.
« C'est vrai, Michael. J'aurais dû savoir que si quelqu'un jouait à un jeu stupide, ce ne pouvait pas être toi. »
Le visage caché par l'ombre du chapeau à large bord, le soldat ne bougea pas. Le père Cavano fit trois pas vers lui en secouant le bras auquel Mike s'accrochait pour le retenir. Le garçon préféra rester à l'arrière.
« Fils, dit le prêtre d'une voix douce et persuasive, sors de là. Viens nous parler. »
Dans l'ombre, rien ne bougea. Le soldat aurait pu être une statue de pierre grise.
« Fils, parlons un peu. »
Le prêtre fit deux autres pas en direction de la silhouette sombre et s'arrêta à environ 1,50 m.
« Mon père !»
cria Mike. Le père Cavano le regarda par-dessus son épaule et sourit.
« Quel que soit ce jeu, Michael, je crois,
comme catapulté hors du bouquet d'arbres, le soldat bondit et son grondement rappela à Mike celui du chien enragé tué par Memo. Le prêtre mesurait 30 cm de plus que le soldat, mais la silhouette vêtue de kaki s'accrocha à son dos, ses bras, ses jambes, et tous deux tombèrent au sol. Le père, surpris, eut un bref grognement tandis que le soldat continuait de gronder. Ils roulèrent sur l'herbe rase jusqu'à une vieille pierre tombale. Le soldat, à cheval sur le prêtre, lui serrait le cou de ses longs doigts. Celui-ci, la bouche et les yeux ouverts, tentait de crier mais n'émettait qu'une espèce de gargouillis. Le soldat portait son chapeau rejeté en arrière et Mike voyait son visage lisse et cireux et ses yeux semblables à des billes blanches. La créature ouvrit la bouche.
Non, il ne l'ouvrait pas.
Elle s'arrondissait comme un trou creusé dans l'argile et Mike aperçut ses dents, plusieurs rangées de dents au bord d'une bouche dépourvue de lèvres.
« Michael !»
Le père essayait de toutes ses forces d'empêcher les longs doigts du soldat de l'étouffer, mais il avait beau se tortiller et se démener, la petite silhouette kaki était solidement installée à califourchon sur lui, les genoux prenant appui sur l'herbe.
« Michael !»
Le garçon réagit enfin. Il franchit en courant les 3 mètres qui le séparaient des combattants et se jeta sur le soldat qu'il se mit à bourrer de coups de poing. Sous le tissu de la chemise, le dos de la créature se tordait et grouillait. L'enfant avait l'impression de frapper un sac plein d'anguilles. Il essaya un direct à la tête et fit voler le chapeau derrière une pierre tombale. Le crâne était chauve, d'un blanc rosé. Il cogna à nouveau. Le soldat retira une main du cou du prêtre et repoussa le garçon en arrière. Le t-shirt de Mike se détacha. L'enfant atterrit 2 mètres plus loin dans l'ombre des genévriers. Il roula, se releva et arracha une grosse branche du tronc le plus proche. Le soldat baissait la tête vers le cou du père et ses joues se gonflèrent comme s'il allait cracher du tabac à priser. Le père avait dégagé sa main gauche et son gros poing martelait le visage et la poitrine de son assaillant. Mike pouvait voir l'impact des coups sur le front de la créature, mais les creux se comblaient aussitôt. Le visage du soldat se reformait, ses yeux blancs bougeaient et fixaient le prêtre d'un regard aigu. Soudain, la bouche du monstre se plissa, s'allongea, se changea en une sorte d'entonnoir de chair. Le père Cavano hurla. L'obscène appendice de 20 centimètres de long s'abaissait vers son cou. Mike se précipita, planta fermement les pieds dans le sol comme s'il attendait une balle sur le terrain de baseball et frappa de toutes ses forces. Il atteignit le soldat derrière l'oreille avec un bruit sourd dont le cimetière renvoya l'écho. Un instant, il crut avoir arraché la tête du monstre. Le crâne et la mâchoire du soldat s'étirèrent en un angle impossible et vinrent s'appuyer contre son épaule droite. Aucune colonne vertébrale ne pouvait se courber ainsi. Des yeux blancs luirent entre les plis de chair tordue et se posèrent sur Mike. Plus rapide qu'un serpent, la forme kaki leva le bras gauche, saisit la branche, l'arracha au garçon et l'émietta comme quelqu'un brisant une allumette. Puis, sa tête se remit d'aplomb, se reforma, le groin de l'emproie s'allongea et s'abaissa à nouveau vers sa victime.
« Mon Dieu !»
hurla le prêtre. Ses mots furent étouffés car le soldat lui vomit dessus. Mike recula, les yeux dilatés d'horreur en voyant l'immonde torrent couler du mufle de la créature. Une masse grouillante tomba sur le visage, le cou, la poitrine du prêtre, rebondit sur ses paupières fermées, se glissa par le col de la chemise vers sa poitrine et quelques vers bruns roulèrent dans sa bouche ouverte. Le père Cavano crachota, s'efforçant d'esquiver cette marée d'asticots et de les recracher dans l'herbe, mais le soldat se pencha encore plus près pour attirer avec ses doigts immenses le visage du prêtre vers lui, comme un amant tenant la tête de sa bien-aimée pour un baiser longtemps attendu. Les vers continuaient à se déverser de ses joues gonflées et de sa bouche en entonnoir. Mike fit un pas et se figea, le cœur glacé d'une nouvelle horreur en voyant les bestioles brunes se tortiller sur la poitrine du père Cavano, s'y enfoncer, puis disparaître dans sa chair. D'autres pénétrèrent dans ses joues et son cou. Le garçon hurla, chercha sa branche cassée, puis pensa à la bouteille dans sa poche. Saisissant le col de chemise en laine rugueuse, il vida la bouteille d'eau bénite dans le dos de la créature. Il ne s'attendait pas à plus de réaction que lors de la bénédiction de la tombe. Il se trompait. L'eau bénite grésilla tel un acide brûlant une viande et une ligne de trous apparut sur le dos du soldat, comme s'il avait été abattu à la mitrailleuse. Il émit un bruit de crabe jeté dans l'eau bouillante, mi-sifflement, mi-gargouillis, et se cambra tellement en arrière que le bout de son crâne cireux toucha presque le talon de ses bottes. Des bras sans os s'agitèrent et se tordirent comme des tentacules. Les doigts de 20 cm, fourchus maintenant, se crispèrent. Mike bondit en arrière et jeta les dernières gouttes d'eau bénite sur le visage de la créature. Une forte odeur de soufre se répandit dans l'air, le devant de la vareuse s'enflamma, et le soldat s'enfuit en roulant sur lui-même à toute vitesse, corps et membres tordus dans des postures impossibles pour un être humain. Le père Cavano se laissa aller contre une pierre tombale, la poitrine secouée de hoquets. Mike suivit le soldat, mais il s'arrêta près du triangle formé par les genévriers lorsqu'il s'aperçut qu'il n'avait plus d'eau bénite. Le soldat gratta dans l'obscurité, se coucha face et avant-bras contre le sol et, se glissant sous les aiguilles des conifères, s'introduisit dans la terre aussi facilement que les vers étaient entrés dans la chair du père Cavano. 20 secondes plus tard, il avait disparu. Mike s'approcha, vit un trou à bord strié, renifla sa puanteur d'égout et de viande avariée, puis le tunnel se referma sur lui-même en un simple creux de terre fraîchement remué. Le père avait réussi à se mettre à genoux et, prenant appui sur la pierre tombale, vomit jusqu'à ce que son estomac fût vide. Il avait des marques rouges sur les joues et la poitrine, mais il n'y avait plus trace des vers. Il avait, remarqua Mike, déchiré sa chemise en essayant de s'en débarrasser.
« Jésus, Jésus, Jésus !»
répétait-il comme une litanie entre les hauts le cœur et les halètements. Mike respira un grand coup, s'approcha et l'entoura de son bras. Sanglotant, le prêtre se laissa relever et s'appuya sur lui. L'homme et l'enfant se dirigèrent à petits pas chancelants vers la porte du cimetière. Il faisait tout à fait noir maintenant, et la papa mobile n'était qu'une masse sombre derrière la grille de fer forgé. Mike pensait aux créatures qui glissaient dans les herbes derrière lui ou creusaient dans le sol sur lequel il marchait. Il essaya de hâter le pas car il avait du mal à supporter le contact du prêtre. Et si ses vers passaient de sa chair à la sienne? Mais le père était incapable de se tenir debout. Ils arrivèrent enfin au parking. Le garçon poussa le père Cavano derrière le volant, fit en courant le tour du véhicule, grimpa à l'intérieur et verrouilla les portières. La clé était restée sur le contact. Mike la tourna, le moteur démarra aussitôt, puis il alluma les phares, illuminant les pierres tombales et le bosquet de genévriers. Mais la grande croix au bout du cimetière resta dans l'obscurité. Le prêtre, qui n'avait toujours pas retrouvé son souffle, murmura quelque chose.
« Quoi ?»
Mike avait aussi du mal à respirer.
ces formes noires dans le cimetière. On dirait qu'elles bougent. Difficile d'en être sûr.
Tu vas être obligé de conduire,
bégaya le père, et il s'effondra sur le siège. Mike déverrouilla les deux portières, compta jusqu'à trois, courut du côté du conducteur, poussa le corps gémissant du prêtre, s'installa au volant et reverrouilla les portières. Effectivement, une forme bougeait près de la cabane au fond du cimetière. L'enfant avait quelquefois conduit la voiture de son père et un jour, le père Cavano lui avait laissé le volant de la papamobile sur une petite route de campagne. Il pouvait à peine voir au-dessus du haut tableau de bord et du capot, mais ses pieds atteignaient les pédales. Et Dieu merci, le véhicule possédait un changement de vitesse automatique. Il démarra, rejoignit la 6 sans se préoccuper de la circulation, faillit aller dans le fossé de l'autre côté et cala en freinant trop brusquement. Il sentit une forte odeur d'essence, mais le moteur repartit sans se faire prier.
Des ombres parmi les pierres tombales et qui se dirigeaient vers la grille.
Il appuya sur l'accélérateur, projeta du gravier à 10 mètres derrière lui, descendit à toute allure la colline, roula pied au plancher au-dessus de la grotte, remonta jusqu'à l'arbre noir, faillit manquer le tournant dans Jubilee College Road et ne ralentit qu'en s'apercevant qu'il passait devant le château d'eau à 150 km à l'heure. En revanche, il roula à une allure d'escargot dans les rues du bourg, certain de se faire arrêter par Barney ou quelqu'un d'autre, et le souhaitant presque. Le père Cavano, grelottant et muet, gisait sur le siège avant. Mike faillit fondre en larmes en se garant sous le lampadaire devant le presbytère. Il coupa le moteur et fit le tour du véhicule pour aider le prêtre à descendre. Celui-ci était blême, brûlant de fièvre, les yeux presque révulsés. Les marques sur sa poitrine et son cou ressemblaient à des cicatrices. Mike tapa à la porte du presbytère, appela, priant le ciel que la gouvernante, Madame McCafferty, ait attendu le père. Les lumières de la véranda s'allumèrent et la petite femme sortit en tablier, le visage tout rouge.
« Mon Dieu !»
s'exclama-t-elle en levant les bras au ciel.
« Qu'est-ce qui... »
Elle regarda Mike d'un air de reproche, comme si elle le soupçonnait d'avoir attaqué le prêtre.
« Il est tombé malade !»
Elle regarda le père de plus près, hocha la tête et aida Mike à le monter dans sa chambre à l'étage. L'enfant trouva bizarre de voir une femme déshabiller le prêtre et lui enfiler une chemise de nuit de grand-père, mais il savait qu'elle était comme une mère pour lui. Enfin, le prêtre, geignant doucement, le visage luisant de transpiration, fut couché entre des draps propres. Madame McCafferty avait déjà pris sa température, plus de 40. Et elle lui rafraîchissait le visage à l'aide d'un linge humide.
« Qu'est-ce que c'est, ces rougeurs ? »
demanda-t-elle en effleurant un des demi-cercles sur la joue du malade. Mike, trop bouleversé pour parler, haussa les épaules. Lorsqu'elle avait quitté la pièce pour aller chercher de l'eau, il avait relevé son t-shirt pour vérifier qu'il n'avait pas de marque sur la poitrine et examiné son visage et son cou dans le miroir.
« Les vers sont entrés dans sa chair. »
L'excitation du combat était retombée. À présent, il était pris de vertige et de nausée.
« Je vais appeler le docteur !» dit Madame McCafferty. « Pas ce Weisks, le docteur Staffney. Reste là, toi !»
Ce n'était pas une question, mais un ordre. Elle voulait qu'il donne des informations au médecin. Mike refusa d'un signe de tête. Il aurait bien voulu rester, mais il faisait noir et son père travaillait de nuit cette semaine-là. Memo était seul à la maison avec sa fille et ses petites filles. La gouvernante essaya en vain de le retenir. Le garçon tapota la main, maintenant froide et humide, du prêtre et les jambes en coton, descendit l'escalier. Il avait parcouru la longueur d'un pâté de maison lorsqu'il pensa à l'eau bénite. Haletant, presque en larmes, il retourna en courant au presbytère, le dépassa et s'introduisit par la petite porte latérale dans l'église. Il prit dans la sacristie un linge propre et entra dans le sanctuaire obscur. Il commença par remplir sa bouteille de plastique au bénitier de l'entrée, puis, après une génuflexion, s'approcha de l'autel et s'agenouilla un instant, sachant qu'il se préparait à commettre un péché mortel. Seul le père Cavano, prêtre ordonné, avait le droit de toucher à l'Eucharistie. Il dit dans sa tête un acte de contrition, monta les degrés de l'autel, prit dans le ciboire une hostie consacrée, refit une génuflexion, enveloppa l'hostie dans un linge et la mit dans sa poche. Il courut tout le long du chemin. En approchant de la porte de la cuisine, il entendit du bruit dans l'obscurité. Il s'arrêta, le cœur battant, sortit son flacon d'eau bénite, le déboucha d'un coup de pouce et le tint levé. On bougeait dans le poulailler.
« Allez, » murmura-t-il en approchant. « Venez, je vous attends.
Hé, O'Rourke, c'est à cette heure-ci que tu rentres chez toi ?»
C'était la voix d'Arlène. Quelqu'un alluma un briquet et Mike vit Jim, Kevin, Dale, Lawrence et Cordy Cook. Même la présence de la fillette ne le surprit pas. Il entra dans la cabane.
« Tu vas pas nous croire quand on va te raconter ce qui nous est arrivé !»
commença Dale Stewart d'une voix tendue. Sachant bien qu'il ne pouvait pas le voir dans le noir, Mike eut un sourire amer.
« Essaie toujours.